Quatrième et dernier temps de notre semaine consacrée à l'histoire alternative, à l'histoire des possibles ou à l'histoire contrefactuelle. Aujourd'hui, le droit de l'espace est-il un exemple justement de contrefactuel ? Après avoir reçu lundi Quentin de Luermoz et Pierre Saint-Garvelou qui réfléchissent dans le livre qui va paraître la semaine prochaine pour une histoire des possibles au seuil à l'intérêt de l'histoire contrefactuelle pour les historiens aujourd'hui. Et puis mardi nous être demandé dans le documentaire ce qui aurait pu se passer si le mur de Berlin n'était pas tombé. Et hier nous être plongé dans le formidable roman de Philippe K. Dick, Le Maître du Haut-Château, commenté par deux historiens. Nous allons nous demander aujourd'hui si le droit de l'espace est un exemple de contrefactuel. Il y a 50 ans, en 1960, alors que personne n'avait encore posé le pied sur la Lune, les grandes puissances préparaient un traité de l'espace, finalement signé en janvier 1967. À qui appartient la Lune ? À qui appartiennent les autres corps célestes ? C'est la question que se posait justement ce traité. Un traité remis récemment en cause par les seuls États-Unis en décembre dernier, le Space Act, décidé que toute entreprise américaine pourrait exploiter librement un territoire spatial du moment qu'un véhicule spatial de ces entreprises aurait mis le pied, pourrait-on dire, sur un de ces corps célestes. Alors juridiquement, à qui appartient l'espace ? C'est ce que nous verrons avec des textes juridiques et poétiques lus par Daniel Königsberg, choisis par Anaïs Quien, qui a préparé cette semaine avec nous, et commentés par Armel Kerest. Il est professeur émérite à la faculté de droit. Il a enseigné aux universités de Bretagne et de Paris-Sud. Et avec Philippe Aquileas, il est professeur de droit public à l'université de Caen-Normandie, directeur du master droit de l'espace et des télécoms à Paris-Sud.
Le spectre de l'arme nucléaire venue du ciel va peut-être disparaître et un pas important vers la paix pourrait être fait bientôt. C'est ce qu'a dit le président Johnson en annonçant aujourd'hui que les États-Unis, l'Union soviétique et d'autres pays, sans préciser lesquels, s'étaient mis d'accord sur un projet de traité pour interdire les armes nucléaires dans l'espace extra-atmosphérique.
Le chef de l'exécutif américain qui recevait les journalistes au Texas a précisé qu'il soumettrait ce traité au Sénat pour ratification dès le début de l'an prochain. Il a ajouté que c'était l'événement le plus important dans le domaine du contrôle des armements depuis le traité d'interdiction partielle des expériences nucléaires en 1963.
Le cosmos ne sera ni un arsenal ni un champ de bataille, on peut l'espérer en tout cas. Les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne ont signé aujourd'hui à Moscou un traité sur l'utilisation pacifique de l'espace et des corps célestes. De Moscou, Victor Vraiment.
Petite cérémonie discrète ce matin à Moscou, dans un immeuble du ministère soviétique des Affaires étrangères, rue Tolstoï. Cérémonie discrète malgré la présence de M. Kosygin, qui contraste évidemment avec l'importance que l'on accorde en général à ce traité qui interdit l'utilisation de l'espace à des fins militaires. Les signataires du traité, c'est-à-dire l'URSS, les États-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi tous les pays qui voudraient bien y adhérer, les signataires s'engagent donc à ne pas mettre des armes nucléaires sur orbite, à ne pas installer des bases militaires sur les corps célestes, la Lune y compris. Ce traité va même beaucoup plus loin puisqu'il est interdit aux États membres de s'approprier des zones spatiales. Pourtant, on est très loin de l'euphorie qui avait entouré la signature du traité de Moscou sur l'arrêt des expériences nucléaires autres que souterraines en 1963. Il est très révélateur en particulier que cet accord de désarmement dans l'espace ait été conclu par l'intermédiaire des Nations Unies. Ce n'est pas le résultat d'un dialogue direct Moscou-Washington. Et justement, ce dialogue direct paraît bien être au point mort. Monsieur Thompson, l'ambassadeur des États-Unis, a dit ce matin « J'espère que ce ne sera pas la seule occasion pour moi de signer un traité à Moscou. » Mais dans l'immédiat, à cause de la guerre du Vietnam, les Soviétiques vont certainement refuser tout ce qui ressemblerait à un rapprochement avec les Américains.
Le document a déjà été signé à Londres et à Moscou. Dans quelques heures, ce sera chose faite à Washington, comme nous le dit Michel Enfrol.
L'accord réalisé entre Moscou et Washington, le premier accord d'ailleurs en 4 ans, pour ne parler que des deux super grands, met un peu de baume au cœur des dirigeants américains. En raison du conflit vietnamien, en effet, les relations avec la Russie se sont progressivement détériorées et dans peu de domaines, arrive-t-on encore à s'entendre ou à se comprendre. Il est bon de rappeler toutefois qu'en cas de danger ou de violation du traité, les États-Unis ont les moyens de lancer sous peu un laboratoire militaire en orbite autour de la Terre et que des engins nucléaires pourraient très bien y trouver leur place le cas échéant. Quels seraient les résultats d'une guerre nucléaire à l'échelle spatiale ? On ose l'imaginer surtout après avoir entendu hier soir Robert McNamara, le ministre de la Défense, expliquer le plus calmement du monde qu'une guerre terrestre entre les États-Unis et l'URSS, avec ou sans réseau défensif antimissile, ferait au minimum 240 millions de victimes.
Voilà pour cette archive qui nous replonge dans une période où on parlait de super grands et où messieurs Kosygin et autres étaient des personnalités reconnues. Évidemment, on est 50 ans en arrière. Bonjour Anaïs Kien.
Bonjour.
Et on raconte justement cette histoire de la préparation et de la réalisation de ce traité sur le droit de l'espace, traité signé en janvier 1967, qui est au cœur de notre discussion aujourd'hui.
Voilà, ces deux archives dataient, s'étalent sur décembre 1966, le moment de l'accord. Et l'accord formel, la signature, la ratification de ce traité de l'espace en janvier 1967. Et alors notre idée pour conclure cette semaine sur le contrefactuel, sur l'histoire des possibles, était de convier exceptionnellement, non pas des historiens, mais des juristes, pour leur poser cette question, pour vous poser cette question, Philippe Aquileas et Armel Kerest, de savoir si finalement l'élaboration de la loi, de la règle, ne relève pas justement de la question directement du contrefactuel. Alors nous allons, au cours de cette émission, nous appuyer sur cet exemple du traité de l'espace. Quel plus bel exemple d'ailleurs que de prévoir les usages de la Lune et des autres corps célestes, comme on l'a entendu, pour vous poser cette question directement.
Alors Armel Kerest, pour commencer, qu'est-ce qu'il faut dire de cela? Est-ce que c'est un problème d'interprétation des historiens par rapport à ce qu'est le droit, ou est-ce qu'au fait, effectivement, vous pratiquez une sorte d'exercice contrefactuel en réfléchissant aux usages futurs de tout ce qui est sur Terre ou hors de Terre, en l'occurrence en tant que juriste?
Oui, d'une certaine manière, le droit s'oriente toujours vers l'avenir. Il cherche à organiser l'avenir, éventuellement à rigidifier la situation pour que on ait une certaine sécurité, une sécurité juridique, ou pour prévoir différentes situations. Et donc, par principe, le droit s'oriente toujours, ne peut pas être rétroactif. Une loi, en principe, n'est pas rétroactive. Donc, le but du droit, c'est toujours de prévoir à l'avance. La particularité du traité...
Et donc de faire des efforts d'imagination pour les juristes et les gens qui rédigent le droit.
Pas nécessairement, parce que, justement, c'est la particularité que vous avez bien notée du traité de 1967. Il s'applique avant même que l'activité ne soit conduite. On peut faire une comparaison avec la mer. La Convention de 1982 sur le droit de la mer, elle prend en compte une pratique ancienne. C'est cette pratique ancienne, presque millénaire, au fond, de l'activité maritime et d'un droit qui progressivement s'est mis en place. Et on va cristalliser dans une codification ce droit qui est fabriqué tout doucement par la pratique. En matière spatiale, c'est tout à fait différent. On est dans un système dans lequel ce sont des États qui se mettent autour d'une table dans le cadre d'un comité des Nations Unies qui a élaboré le traité de 1967. Parce que c'est au sein de ce comité, depuis 1958, qu'on travaille à l'élaboration des règles. Et donc, comité restreint, mais dans lequel un assez grand nombre d'États sont représentés, qui prépare le projet de 1967 qui va être signé donc en janvier 1967.
Oui, et on entendait bien dans ces archives, Armel Kerest, cette terreur, cette peur d'un conflit nucléaire et cette recherche, malgré tout, le désarmement n'a pas été une réussite du point de vue des négociations internationales, notamment entre les deux blocs, mais il est nécessaire, malgré tout, de se protéger d'une possible troisième guerre mondiale. On entend cette angoisse, en tout cas dans la voix des journalistes que l'on a entendu à l'instant.
Oui, tout à fait. La guerre froide est un élément absolument central de la mise en place du droit spatial. Au point d'ailleurs que l'arrêt de la guerre froide pose maintenant des problèmes, parce que maintenant on n'arrive plus à mettre en place des règles. C'est la guerre froide qui crée la nécessité, à cause de ce risque d'affrontement. Au fond, chacun comprend bien que mettre des armes nucléaires en orbite n'est pas extrêmement prudent, que s'approprier la Lune n'est pas forcément une très bonne idée. Et donc on a ces deux États qui vont, les deux grands États, les deux superpuissances du moment, qui vont s'accorder pour un traité. Et c'est tous les deux qui vont mettre en place ce traité qui va être en fait accepté par l'ensemble de la communauté internationale.
Mais ce qui est intéressant dans cet exemple, Armel Kerest, tout de même, c'est que un contexte, un contexte de guerre froide, un contexte de possible guerre nucléaire. Il faut se rappeler qu'on est 4 ans après la querelle des missiles de Cuba, 4 ou 5 ans après la querelle des missiles de Cuba. Donc ce contexte-là va prévoir un droit qui va être applicable une fois que ce contexte de guerre froide va disparaître. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte particulier de relations entre des grands États, les grandes puissances, en l'occurrence de l'époque. C'est ce contexte qui guide le droit que l'on va mettre en place. Mais néanmoins, une fois les conditions de naissance de ce droit disparues, eh bien néanmoins, ce droit continue à s'appliquer.
Vous posez la question de l'horizon d'attente de 1967, Emmanuel.
Oui, c'est ça. Oui, on est dans cette idée-là.
Mais c'est le principe même de la formation du droit. Le droit, par principe, va s'appliquer dans le futur. Il est fait pour s'appliquer dans le futur. Alors, bien sûr, à certains moments, la difficulté vient du fait que les conditions peuvent être changées. Mais c'est vrai que finalement, d'une façon assez paradoxale, la communauté internationale était plus apte à fabriquer du droit pour tout le monde à cette époque-là, du fait de la guerre froide. Et à l'heure actuelle, on a plus la pression de certains États.
La multipolarité n'est pas forcément une bonne idée.
On a un exemple, peut-être parlerons-nous tout à l'heure à propos de l'appropriation de la Lune. On a un exemple très clair de l'évolution dans un sens et dans l'autre de cette situation.
On en parlera dans un instant. Anaïs Quin.
Alors Philippe Aquilas, il faut peut-être voir aussi ce qu'on mobilise en 1967 malgré tout pour organiser cette réflexion autour de la réglementation de l'espace. On a entendu dans ces archives que finalement ce traité, la négociation de ce traité se passe étonnamment bien. On entend l'étonnement de toutes les délégations diplomatiques et des journalistes eux-mêmes à voir Moscou et New York capables et Washington capable de mener cette négociation à bien. C'est aussi ce traité de 1967 fait suite à des mesures unilatérales dont on a très peu parlé finalement au moment où cela s'est passé sur la haute mer. Et on peut peut-être parler de cette législation sur la haute mer qui a aussi inspiré ce traité de 1967, puisqu'en 1945 les États-Unis s'arrogent de manière totalement unilatérale les hauts fonds marins qui entourent le continent américain à des fins d'exploitation, sans que personne finalement n'y prête grande attention et en toute légalité du point de vue du droit international.
Alors,
effectivement, d'abord, l'espace extra-atmosphérique est une nouvelle zone qui est censée accueillir des activités humaines, comme la mer, et il convenait à cette époque d'organiser le cadre juridique de l'exploration et puis de l'exploitation de l'espace extra-atmosphérique. Il y avait effectivement le précédent du droit de la mer et on a vu comment, en droit de la mer, progressivement le principe de la liberté de la haute mer a été réduit au profit des prétentions territoriales et souveraines des États. Et l'exemple que vous citez, c'est-à-dire la déclaration de Truman en 1945, qui va annoncer qu'unilatéralement les États-Unis vont exercer des droits de juridiction sur leur plateau continental, afin d'y autoriser l'exploitation des ressources naturelles.
Ça étend finalement la souveraineté nationale au-delà de ce qui était défini par le droit international jusque-là.
La compétence. C'est-à-dire qu'un État va se donner un titre de compétence dans un espace qui était jusqu'alors international, puisqu'il s'agissait de la haute mer. Donc c'est une revendication qui finalement a été validée par la suite par la révision du droit de la mer intervenue lors des conférences des Nations Unies. Et comme l'indiquait le professeur Kerestre, peut-être que nous voyons actuellement le même mouvement
sur le Space Act de 2015
se produire avec le droit de l'espace.
Alors, on y viendra dans un instant à ce Space Act. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, puisque nous parlons de ce traité, peut-être faut-il en entendre les termes tels qu'ils ont été définis le 27 janvier 1967 par ceux qui ont conclu ce traité à Washington, à Moscou et à Londres. Le traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, Daniel Königsberg.
Les États parties au présent traité, s'inspirant des vastes perspectives qui s'offrent à l'humanité du fait de la découverte de l'espace extra-atmosphérique par l'homme, Reconnaissant l'intérêt que présente pour l'humanité tout entière le progrès de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Estimant que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique devraient s'effectuer pour le bien de tous les peuples, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique. Désireux de contribuer au développement d'une large coopération internationale en ce qui concerne les aspects scientifiques aussi bien que juridiques de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Estimant que cette coopération contribuera à développer la compréhension mutuelle et à consolider les relations amicales entre les États et entre les peuples. Tenant compte de la résolution 110 de l'Assemblée générale des Nations unies en date du 3 novembre 1947, résolution qui condamne la propagande destinée ou de nature à provoquer ou à encourager toute menace à la paix, toute rupture de la paix ou tout acte d'agression, et considérant que la dite résolution est applicable à l'espace extra-atmosphérique, sont convenus de ce qui suit. Article 1er. L'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique. Elles sont l'apanage de l'humanité tout entière. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d'égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles.
Voilà pour ce premier extrait donc de ce traité du 27 janvier 1967 sur régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. C'est une belle langue, enfin c'est une langue juridique j'imagine relativement classique, mais qui en évoquant la question des corps célestes nous replonge dans la lecture de Pascal ou encore de Cyrano de Bergerac, Première manière. Que nous dit ce texte Armel Kerest et en quoi justement est-il un exercice particulier? Il n'est que la prolongation, d'après ce qu'on croit comprendre quand on n'est pas juriste, de ce qui s'applique sur Terre à l'espace.
Oui, avec la particularité que dans l'espace extra-atmosphérique, comme en haute mer, aucun État n'exerce de compétences territoriales. C'est la grande particularité sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un État qui puisse exercer sa compétence territoriale. Alors bien sûr, on le voyait dans la déclaration Truman. Dans la déclaration Truman, les États-Unis revendiquent une partie. Alors ils ne revendiquent pas tout à fait la souveraineté parce qu'ils veulent éviter que les autres États, parce que bien sûr s'ils le revendiquent, le risque est que les autres vont le revendiquer aussi.
Mais ils le font seuls. Ils c'est le font seuls.
Mais le risque, c'est aussi que les États, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé, revendiquent la souveraineté et bloquent la navigation. Alors en ce qui concerne l'espace, on a une espèce de dialogue, au fond, entre les pays spatiaux, qui sont à l'époque les États-Unis, l'Union soviétique, et puis la France qui arrive tout doucement avec son petit satellite Astérix, qui sont les trois premiers États à avoir mis des objets en orbite. D'un côté, on a ces États spatiaux, et puis de l'autre, on a tous les autres. Or, le problème est qu'il faut, au fond, qu'il y ait une sorte d'acceptation par les autres États de l'activité des premiers dans l'espace. Et c'est ça un peu le but de ce texte, qui a un côté très humaniste, très pacifiste.
On a l'impression que tout va bien quand on lit ce texte, finalement. Il y a une concorde des États sur cette planète qui n'a pas l'air d'être en guerre.
Oui, quand j'en parlais avec mes étudiants, je parlais de « United Nations blablabla ». parce que au fond, on a des belles paroles. C'est très beau, c'est merveilleux. Ça doit se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, même pas de tous les États. Et donc, on a quelque chose là qui est finalement très optimiste.
Mais tout de même, sur cette question, Philippe Aquiléas, on se dit, personne n'a encore mis le pied dans l'espace. On ne sait pas, en tout cas, ce qu'est la Lune. Ça sera un tout petit peu plus tard. Donc, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. On ne sait pas ce qu'il va y avoir sur place. Il y a encore quelques rêveries possibles.
Énormément de rêveries, même.
Oui,
on n'en est qu'au stade de la rêverie, quasiment.
Voilà. Et à ce moment-là, justement, on décide de légiférer. Donc on légifère sans trop savoir, on légifère sans avoir vu, sans trop connaître l'endroit dont on parle. Est-ce que ça pose pas un problème au point de vue juridique, ou est-ce qu'au contraire, c'est classique dans le milieu juridique que de parler de choses qu'on n'a pas encore entreaperçues par la connaissance humaine ?
Le droit... vise aussi à répondre aux besoins de la société. Et donc, dès lors que les activités humaines se déroulent dans un espace, nécessairement, nous avons besoin d'un cadre de régulation.
Et puis, on a quand même déjà connu des moments de colonisation sur cette planète à ce moment-là. La question de gagner du terrain, de s'approprier du terrain, qu'il soit finalement sous-marin, céleste ou terrien, l'humanité l'a déjà rencontré avant 1967.
Tout à fait, car en réalité, il y avait déjà quelques satellites qui avaient été lancés et on connaissait les possibles utilisations de l'espace, aussi bien à des fins pacifiques qu'à des fins militaires d'ailleurs. Mais le texte, finalement, vise principalement à anticiper l'arrivée de l'homme sur la Lune. Car pourquoi cette précipitation dans les années 60 ? Car parallèlement aux négociations du traité de l'espace, se déroulait la course à la Lune, qui opposait les deux superpuissances, et c'est peut-être cette crainte que vous indiquiez, de voir le premier État arriver sur la Lune, planter son drapeau, comme on le faisait sur Terre, sur des îlots, et donc revendiquer sa souveraineté.
Daniel Königsberg.
Article 2. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l'objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen.
Armel qui reste.
Oui, on voit bien là, au fond, la nécessité qu'ont les États de mettre en place une règle. Parce que la règle internationale qui existait à l'époque était la règle du premier arrivé, premier servi. C'est le principe de l'acquisition de territoires sans maître.
C'est-à-dire qu'en 69, quand Armstrong pose le drapeau américain sur la surface de la Lune, il ne dit pas « la Lune m'appartient », puisqu'il y a eu le traité de 67.
Exactement, parce qu'il y a l'article 2 du traité 1967. Si nous n'avions pas eu ce traité, le premier arrivé, donc on ne le savait pas en 67, aurait pu revendiquer comme on revendiquait des îles. Et c'est le principe de l'acquisition des territoires sans maître. Mmh. Et on a là des arrêts, on a l'arrêt sur le Groenland oriental de la Cour internationale de justice qui confirme ce droit. Et le risque était important. C'est pour ça qu'on a le traité de 67.
Anaïs Quin.
Finalement, Armel Kérès, dans ce contexte de guerre froide, de tensions internationales et de surarmement progressif, on est là, alors qu'on regarde ce traité, devant, d'une certaine façon, une réussite dans la concertation, dans la propriété collective de l'univers. Est-ce qu'on sait comment tout cela a été négocié ? Est-ce qu'on connaît un petit peu les coulisses de ce traité de l'espace ?
Oui, bien sûr, on le connaît parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au sein du comité pour l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique qui se réunit toujours. Je vais y aller en avril, début avril, nous avons la réunion de ce comité juridique, de ce comité des Nations Unies. Et donc, c'est au sein de ce comité que les négociations ont eu lieu. Elles ont été relativement lentes parce qu'on a le traité de 67, mais on a aussi la résolution de 1963 qui était déjà les prémices de ce traité. Et donc on a une coopération qui est permanente, parce que malgré la guerre froide, ou plutôt à cause de la guerre froide, on a ces endroits où, au fond, on a une coopération qui se met en place. Et l'exemple de l'article 2 est tout à fait intéressant, parce que au moment de 67, comme l'indiquait Philippe Aquileas tout à l'heure, on a l'inquiétude de voir le premier arriver, on ne savait pas qui allait être le premier. Donc il était important pour les deux de protéger. Et ce qui est amusant, c'est que maintenant...
De laisser les droits ouverts, d'une certaine façon. Faire en sorte que les...
De les limiter.
D'interdire l'appropriation. Ouais. Donc on ferme, au contraire. On ferme l'appropriation.
Philippe Aquileas.
On ferme l'appropriation pour donner plus de liberté, finalement, aux États dans l'espace.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la liberté de l'espace et le principe de non-appropriation vont ensemble. Si on interdit l'appropriation des territoires, on laisse donc une liberté d'utilisation de l'espace à l'ensemble des États et plus particulièrement en puissance spatiale.
Et en l'occurrence, ce qui est important, aux États à l'époque, parce qu'on n'imagine pas que des acteurs autres que des États, et on y viendra dans la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire des acteurs privés, puissent être concurrents des États dans ce domaine de la conquête spatiale, Amel Kerest.
Oui, c'est vrai, en notant que quand nous comparons avec la mer où il y a beaucoup d'activités privées depuis très longtemps, c'est aussi les États qui interviennent. Hein. Quand nous sommes dans une zone, je veux dire, sur le plan juridique, une activité privée ne se conduit pas comme ça, comme une espèce de no man's land. Il y a toujours un État...
C'est pas le Far West.
Non, c'est pas... Même le Far West, même dans le Far West, vous avez le droit américain qui va s'appliquer au Far West. Et donc, on a toujours le droit d'un État qui va s'appliquer dans un espace.
Un nouvel extrait de ce traité de 1967 sur le droit de l'espace, donc l'article 4, lu par Daniel Koenigsberg.
Les États partis au traité s'engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur des corps célestes et à ne pas placer de telles armes de toute autre manière dans l'espace extra-atmosphérique. Tous les États partis au traité utiliseront la Lune et les autres corps célestes exclusivement à des fins pacifiques. Sont interdits sur les corps célestes, l'aménagement de bases et installations militaires et de fortifications, les essais d'armes de tout type et l'exécution de manœuvres militaires. N'est pas interdite l'utilisation de personnel militaire à des fins de recherche scientifique ou à toute autre fin pacifique. N'est pas interdite non plus l'utilisation de tout équipement ou installation nécessaire à l'exploration pacifique de la Lune et des autres corps célestes.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Un épisode de la fabrique de l'histoire consacré dans notre série sur l'histoire alternative, l'histoire des possibles, l'histoire contrefactuelle, au traité qui a régi donc l'utilisation de l'espace en 1967, traité international sous l'égide de l'ONU, Anaïs Quien.
On peut relever peut-être dans cet article 4, en tout cas la lecture béotienne de cet article, une petite ambivalence. À la fois, on interdit aux militaires de s'installer et en même temps, on les autorise à faire de la recherche scientifique, Philippe Achillès.
Cet article est pour moi le plus intéressant du traité de l'espace, qui démontre finalement qu'il s'agit d'un traité en trompe-l'œil. Et d'ailleurs, j'étais très frappé par les archives que vous avez trouvées, qui finalement mettent l'accent sur la paix dans l'espace, sur le principe de démilitarisation de l'espace. En réalité, ce traité autorise et encourage même l'utilisation militaire de l'espace.
C'est-à-dire ?
Quand vous lisez le texte, ce qui est interdit, c'est uniquement de placer en orbite autour de la Terre des objets porteurs d'armes de destruction massive. Donc, on en conclut qu'autour de la Terre, il est possible de placer d'autres armes que des armes de destruction massive. Et ces armes existent. Ce sont les fameux satellites anti-satellites qui ont été lancés depuis la guerre froide par à la fois les États-Unis et l'URSS pour détruire des satellites ennemis. Il est également possible d'utiliser l'espace pour le transit d'armes de destruction massive, avec des missiles intercontinentaux, et puis bien entendu, d'utiliser l'espace pour appuyer les activités militaires sur Terre.
C'est-à-dire que ça n'est pas dit, mais c'est ce que vous lisez dans ce texte, en l'occurrence, Philippe Achillès. C'est-à-dire que entre les lignes de ce qui est écrit, vous y voyez cela, cette possibilité-là.
C'est clairement un appel à la militarisation de l'espace.
Et puisque ce traité comporte de nombreux articles, lisons maintenant, avec Daniel Koenigsberg, l'article 5 de ce traité de l'espace.
Les États partis au traité considéreront les astronautes comme des envoyés de l'humanité dans l'espace extra-atmosphérique. Elles leur prêteront toute l'assistance possible en cas d'accident, de détresse ou d'atterrissage forcé sur le territoire d'un autre État parti au traité ou d'amérissage en haute mer. En cas d'un tel atterrissage ou amérissage, le retour des astronautes à l'état d'immatriculation de leur véhicule spatial devra être effectué promptement et en toute sécurité. Lorsqu'ils poursuivront des activités dans l'espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes, les astronautes d'un État parti au traité prêteront toute l'assistance possible aux astronautes des autres États partis au traité. Les États partis au traité porteront immédiatement la connaissance des autres États partis au traité ou du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies tout phénomène découvert par eux dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,
qui pourrait présenter un danger pour la vie ou la santé des astronautes.
Alors, formidable extrait, l'article numéro 5 de ce traité de l'espace, Aramel qui reste, parce qu'effectivement, on part dans l'espace, mais il faudra y revenir. Il faudra revenir sur Terre un jour, et peut-être on ne tombera pas exactement du
dans
côté de Baïkonour pour les Russes, ou du côté de Cap Canaveral pour les Américains, ou plus tard, du côté de Kourou, ou sur une terre française lorsqu'on atterrira. Donc il faut aussi garantir la sécurité juridique de ceux qui reviendront et qui tomberont sur un territoire qui n'est pas forcément un territoire ami, en l'occurrence.
Oui, on a là quelque chose, une sorte de réminiscence de la guerre froide, quelque chose d'assez étonnant. On imagine assez mal maintenant un astronaute étranger qui arriverait,
qui tomberait
sur le territoire d'un État et que cet État le mette en prison en lui disant « Monsieur, madame, vous n'avez pas votre passeport ». Ça fait sourire.
En même temps, cet article 5 qui succède à l'article 4... Fait curieusement penser à la protection des prisonniers, au droit de la guerre d'une certaine façon.
Oui, absolument. C'était une des préoccupations premières au départ. Dans le cadre du travail du Comité pour l'utilisation pacifique de l'espace, il y avait deux grands problèmes. Le premier, c'était l'accord sur les astronautes, le retour des astronautes. Ça a fait l'objet d'ailleurs d'un accord qui est le premier accord qui a suivi le traité de 1967, un traité donc accord de 1968. C'était relativement facile. Les deux États se sont arrangés, se sont organisés pour accepter justement l'idée qu'on allait rendre les astronautes et aussi les objets spatiaux.
Bah oui, parce qu'ils arrivent dans une capsule
les
généralement.
Les objets spatiaux, parce qu'il y a un problème aussi de protection des ressources, des brevets, et de tout le système.
Absolument.
De propriété, bien sûr. Et puis le deuxième accord, c'était le problème de la responsabilité. Lui, il a fallu attendre plus longtemps pour faire cette convention de 1962 sur la responsabilité, convention qui, elle aussi, était importante. On a là le démarrage du travail de coopération.
Philippe Aquileas, sur cette partie-là du traité de l'espace de 1967.
Alors, ce qui est intéressant, c'est la manière dont on qualifie les astronautes. Ils sont considérés comme
les envoyés de l'humanité
dans l'espace. Et ça, c'est magnifique comme terme. C'est un terme qui a été justement pensé pour expliquer que ces personnes vont prendre des risques dans l'exploration de l'univers, des risques au nom de l'humanité, au nom de la science, du savoir, et qu'il convient de les protéger, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'ils se trouvent en situation de détresse.
Ça fait penser effectivement à cette capsule qu'on a envoyée dans l'espace au loin, avec ces personnages stylisés façon Léonard de Vinci, un homme, une femme, des corps célestes, etc., pour pouvoir peut-être dialoguer justement avec d'autres civilisations, en espérant qu'un jour elles soient retrouvées par d'autres. C'est vraiment les prémices de cette idée-là, c'est-à-dire c'est une idée de nouvelle frontière que l'on conquiert.
Mais tout à fait. De toute façon, pour les Américains, n'oubliez pas que la conquête de l'espace n'est que la suite, la continuité logique de la conquête de l'Ouest.
Donc c'est le discours de Kennedy en 61 ou 62, je ne sais plus.
Et puis ce sont des juristes et des diplomates qui négocient ce traité et qui créent une nouvelle catégorie d'ambassadeurs d'une certaine façon.
Oui, effectivement, puisque le terme fait référence un peu à la notion d'ambassadeur. Ce sont les ambassadeurs de l'humanité dans l'espace.
Alors, ce traité, effectivement, on va continuer à le lire et peut-être lire tout de suite les parties qui, aux yeux de notre comédien du jour, à savoir Daniel Kemitzer, lui apparaissent comme presque proche d'une littérature à la Beckett, tant l'étrangeté du vocabulaire utilisé est particulier et correspond assez peu à l'image qu'il se faisait en lui-même de
Vous
ce qu'était.
Vous pensez à quel article,
Emmanuel? Le 9 et le 10, par exemple. Le 9 et le 12.
En ce qui concerne l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, les États partis au traité devront se fonder sur les principes de la coopération et de l'assistance mutuelle et poursuivront toutes leurs activités dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, en tenant dûment compte des intérêts correspondants de tous les autres États partis au traité. Les États partis au traité effectueront l'étude de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et deux autres corps célestes, et procéderont à leur exploration de manière à éviter les effets préjudiciables de leur contamination ainsi que les modifications nocives du milieu terrestre résultant de l'introduction de substances extraterrestres et, au cas besoin, ils prendront les mesures appropriées à cette fin. Si un État parti au traité a lieu de croire qu'une activité ou expérience envisagé par lui-même ou par ses ressortissants dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune, et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités d'autres États partis au traité en matière d'exploration et d'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Il devra engager les consultations internationales appropriées avant d'entreprendre la dite activité ou expérience. Tout État parti au traité ayant lieu de croire qu'une activité ou expérience envisagée par un autre État parti au traité dans l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, causerait une gêne potentiellement nuisible aux activités poursuivies en matière d'exploration et d'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, peut demander que des consultations soient ouvertes au sujet de la dite activité ou expérience.
Article 12.
Toutes les stations et installations, tout le matériel et tous les véhicules spatiaux se trouvant sur la Lune ou sur d'autres corps célestes seront accessibles dans des conditions de réciprocité aux représentants des autres États parties au traité. Ces représentants notifieront au préalable toute visite projetée de façon que les consultations voulues puissent avoir lieu et que le maximum de précautions puisse être prise pour assurer la sécurité et éviter de gêner les opérations normales sur les lieux de l'installation à visiter.
Alors là, on se demande si on est chez Isaac Asimov ou dans un traité de juriste de l'époque. C'est la même époque. D'ailleurs, on écrit sur les colonisations, sur les chroniques martiennes de Ray Bradbury, au bout du compte, puisque on se dit, on va s'installer durablement sur ces corps célestes ou sur la Lune. On va peut-être créer des bases. Il y aura des véhicules et on pourra organiser des visites de base, comme dans un contexte entre belligérants ou futurs belligérants, pour vérifier quelles sont les armes, quels sont les personnages qui sont sur place, on peut vérifier les véhicules et il faut donner l'heure et le jour où on va se rendre sur place pour pouvoir discuter de tout cela et vérifier ce qui s'y passe, en l'occurrence Armel Kerest.
Oui, en fait, cet article 9 et l'article 12 qui vient d'être si magistralement lu, j'en suis... parce que c'est compliqué.
Vous l'avez entendu différemment.
Oui, oui, c'est vrai que là, j'allais dire, je le découvre, parce que c'est un article quand même extrêmement complexe. Et donc, traite de ce problème de la contamination. Deux types de contamination. D'abord, une contamination des corps célestes eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'aller mettre des bactéries, d'aller mettre la vie sur les corps célestes, alors que justement, on est en train d'essayer de savoir s'il y en a une ou pas. Si c'est pour retrouver les bactéries qu'on y aura mis, ça ne présente un intérêt modeste. Dans l'autre sens, il y a aussi le problème de la contamination de la Terre par ce qu'on aurait pu reprendre de Mars. Il ne faut pas oublier que dans le livre de science-fiction de H.A. Wells, La guerre des mondes, la fin des Martiens, c'est parce qu'ils sont morts par les microbes terrestres.
Et puis des chocs microbiens, on en a connu dans l'histoire, notamment dans le sous-continent américain. Ouais. Ce risque-là existe aussi pour les gens qui légifèrent
en 67. C'est très sérieusement considéré par les entrepreneurs, enfin les agences spatiales nationales.
Oui, Philippe Kélias, vous avez écrit un article en particulier sur cette... Alors, contamination, c'est un jeu de mots, puisqu'on vient d'utiliser ce terme-là, entre discipline littéraire, pourrait-on dire, de la science-fiction, parfois, et travail juridique sur l'espace, parce que effectivement, ceux qui doivent faire des règles pour le droit, ils lisent des articles de droit, ils lisent des livres de droit, mais ils lisent aussi les auteurs de science-fiction de l'époque, ils lisent aussi, ils vont voir les films, ils vont voir les films de George Lucas sur la guerre des étoiles, et tout cela, ça n'est pas anodin. Cette imagination d'un côté peut parfois rebondir sur l'imagination des juristes qui travaillent sur l'espace.
Alors, il faut savoir que dans le contexte des négociations et de l'élaboration du traité de l'espace, on pensait que tout était possible. Puisqu'on voyait se succéder des exploits donc technologiques, on a vu l'arrivée ensuite de l'homme sur la Lune, donc on s'imaginait que rapidement on allait pouvoir, comme dans les romans de science-fiction, comme dans le cinéma de science-fiction, établir des bases sur la Lune.
C'était aussi la promesse de la propagande de l'un et de l'autre bloc, d'ailleurs, pour dans cette compétition mondiale pour être à la pointe du progrès et de la civilisation, d'une certaine façon.
Tout à fait. Et surtout dans l'imaginaire collectif des États-Unis. Et ce qu'on ne nous disait pas à l'époque, c'est que toute cette aventure coûtait extrêmement cher et que les budgets publics ne pouvaient pas suivre. Donc pendant toute une période d'euphorie, on a vu les juristes travailler sur des textes très intéressants sur le statut des colonies spatiales, sur la manière de faire la police dans l'espace. Et puis, soudainement, la réalité a rattrapé je dirais, le juriste, avec donc la décennie 70-80, on s'est recentré sur des problématiques plus concrètes, l'utilisation des satellites pour l'observation, pour la météo, les télécommunications et la télévision, jusqu'au jour où Star Wars sort au cinéma en 1977. Et que c'est à l'époque où, enfin, c'est à peu près à cette époque où on pense réactiver, en fait, des projets de militarisation de l'espace. Reagan vient ensuite au pouvoir. Il annonce aux États-Unis, dans un discours également magistral, qu'il allait donc révolutionner l'humanité.
Et la guerre des étoiles, d'ailleurs.
Et un discours tellement mal préparé, quand il a annoncé la possibilité de mettre dans l'espace des missiles pour un fameux bouclier, que la presse a immédiatement fait l'analogie avec le film de George Lucas et a donc qualifié le projet de Star Wars.
Moi, j'ai quand même envie de vous poser une question à toutes les deux, à tous les deux. Ce thème du contrefactuel et cet exemple que l'on prend aujourd'hui de ce traité de l'espace de 1967, on voit bien apparaître à quel point, enfin, lorsque nous lisons en tant que spécialistes d'histoire ces textes-là, toutes les références historiques qui auraient pu être important dans cette réflexion. Est-ce que cela a joué, cette référence à la colonisation, au choc microbien, à ce qui aurait pu se passer justement sur la législation qui touche au droit de la mer? Est-ce que ces notions historiques-là, ces erreurs historiques finalement, est-ce que les légistes apprennent des erreurs historiques? Armel Guerest.
Oui, on a toujours en fait des raisonnements qui se font par analogie. Hein, on ne part pas complètement dans un no man's land total. Quand on a discuté au sein du comité de ces questions à la fois de protection de l'environnement, donc ces contaminations, à la fois même des problèmes d'appropriation, on a raisonné par analogie avec la mer. La mer est vraiment la mer ou l'Antarctique, parce que l'Antarctique a été très important aussi en matière de raisonnement sur l'activité spatiale et même en matière de d'activité minière. Et donc on a toujours ce recours à des antécédents, à des choses précédentes. On a par exemple une convention qui est intéressante, enfin une conférence intéressante et un projet de convention 1910 sur la navigation aérienne. Hein, et Louis Blériot, c'est 1909, premier vol international entre la France et la Grande-Bretagne. Et on a donc, en 1910, une conférence à Paris sur la navigation aérienne.
Mais là, on se trouve en 1967, c'est la guerre du Vietnam. D'ailleurs, on l'entendait, cette mise en parallèle permanente, ce contexte rappelé par les journalistes de l'archive que l'on a diffusé en début d'émission. Est-ce que cette notion de colonisation et de possible conflictualité de la rencontre de l'humanité avec un autre milieu est entré en jeu dans ces discussions entre 1963 et 1966 pour la préparation de ce traité. Est-ce qu'on voit apparaître cette conscience finalement colonisatrice?
Je crois quand même qu'on en reste quand même à la relation entre les deux blocs. On n'intervient pas avec le troisième bloc qui serait les extraterrestres. Même si j'ai vous savez qu'il y a ce programme d'écoute de l'univers avec le programme SETI qui s'appelle Search for Extraterrestrial Intelligence. Et j'ai un de mes amis et collègues qui a fait un article en disant qui va pouvoir répondre aux extraterrestres si on trouve quelque chose. Ce qui est évidemment un problème juridique qui est intéressant. Mais c'est vrai que ça pose un problème. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs les films où on voit dans Mars Attaque, on voit destruction immédiate, sans discussion, sans rien, drapeau blanc complètement inutilisé.
Alors, ce dont nous discutons, Philippe Aquileas, c'était avant. C'est-à-dire, c'était avant le mois de décembre dernier, c'était avant ce Space Act qui, d'une certaine façon, dites-vous, prouve que peut-être la loi du plus fort serait toujours la meilleure. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Space Act, c'est-à-dire cette décision unilatérale des États-Unis de revenir sur ce traité dont nous avons lu des extraits avec Daniel Königsberg depuis le début de cette émission, et de dire tout compte fait, tout ça c'est une histoire ancienne, on peut changer la donne?
Alors ça faisait plusieurs années déjà qu'on entendait dans les conférences internationales les Américains nous expliquer que le traité de l'espace représentait un frein pour l'aventure spatiale.
Ah tiens, c'est un terme qu'on utilise souvent en matière d'économie, le frein.
Et donc que...
Le droit peut être un frein.
Voilà, tout à fait, que le droit empêchait finalement, bloquait toute initiative en faveur donc notamment du retour de l'homme dans l'espace. Et le fait que les Américains aient finalement franchi un cap, qui est quand même un cap extrêmement intéressant, en adoptant une loi
unilatéralement.
Donc voilà, donc, c'est américaine. Un acte unilatéral, donc c'est une loi américaine, pour mettre en place un régime de licence permettant à toute personne américaine de pouvoir exploiter.
Permettant et encourageant.
Et encourageant, de toute façon, de pouvoir exploiter commercialement les ressources naturelles des corps célestes. Sans pour autant que cela soit, et c'est bien écrit dans la loi, soit pour autant que cela puisse être interprété comme une proclamation de souveraineté de l'État sur la zone qui ferait l'objet de la licence.
On n'est pas très loin de ce dont parlait tout à l'heure Anaïs à propos de la loi Truman de 1945 sur la mer, par exemple. C'est-à-dire qu'on fait, on n'est pas dans la souveraineté, mais on dit, on peut le faire.
Ah, on dit, on lance un message fort aux entreprises privées en leur disant, allez-y. Le droit vous autorise et même vous encourage. Alors bien sûr, c'est le droit américain, c'est pas le droit international. Mais bon, pour les entreprises américaines, si vous voulez, ça suffit. C'était le feu vert qu'elles attendaient pour commencer à réfléchir sérieusement à des prospections en vue d'une exploitation des ressources naturelles.
Et cela, Armel Kerest, c'est possible parce que justement, on a eu des tentatives, on a eu des essais en tous les cas, de propagation de fusées qui ne venaient pas d'États ou d'agences spatiales nationales, mais qui venaient d'opérateurs privés, d'abord pour pouvoir envoyer peut-être des milliardaires dans l'espace pour qu'ils vivent quelques minutes de bonheur au-dessus de la Terre, mais peut-être aussi pour faire autre chose. C'est cela aussi, Armel Kerest ?
Non, parce qu'en fait, dans l'espace, comme d'ailleurs en mer, dans tous les espaces qui ne sont pas soumis à la souveraineté d'un État, souveraineté territoriale d'un État, l'activité est toujours contrôlée par un État. Autrement dit, on pourrait dire de façon un peu paradoxale et presque provocatrice, qu'il n'y a pas d'activité privée dans l'espace. Il y a des activités nationales dans l'espace.
C'est l'article 6. Et que si on est un acteur privé, eh bien, on est toujours sous la tutelle d'un État.
Voilà, on est toujours sous la tutelle d'un État. C'est vrai en mer. Hein. En mer, c'est le droit du pavillon. Donc, c'est pas extraordinaire. C'est tout à fait normal. C'est dans le système juridique de principe. Donc on est toujours ce que ne met pas en cause la loi de 2015, puisque les activités sont soumises à autorisation. Les activités qui vont être conduites sont soumises à autorisation. La loi américaine dit que le gouvernement, parce qu'on a toujours ce problème de la séparation des pouvoirs aux États-Unis, le gouvernement va devoir aider les activités, rendre plus facile. N'empêche que on a ce problème. Et on a la violation du traité de 1900, à mon avis, la violation du traité de 1967, pour une raison d'ailleurs qui est très simple, qui est qu'on ne peut pas donner plus de droits qu'on en a. Si le gouvernement américain n'a pas le droit de s'approprier la Lune ou les autres corps célestes, dont les astéroïdes, comme on le voit dans l'article 2, on n'a évidemment pas le droit d'autoriser ses citoyens à utiliser les ressources minières.
Parce qu'effectivement, c'est surtout les ressources minières sur ces autres corps célestes et sur la Lune aussi qui sont intéressantes pour les activités privées. Ce n'est pas pour rien non plus qu'il y a 3 jours, on apprenait qu'un petit véhicule chinois était arrivé à se poser et à circuler sur la Lune, parce que d'un seul coup, ça devient aussi un lieu de débat, sinon de combat. Et la Chine n'est peut-être pas signataire, d'ailleurs, de cet accord de 1967. Elle l'est. Philippe Akilias.
Oui, alors, juste pour revenir un peu sur votre remarque, qui était quand même intéressante, c'est qu'on est maintenant dans un changement d'époque concernant l'espace. Je vous disais tout à l'heure, ce sont les budgets publics qui ont porté la conquête spatiale, dans la période d'ailleurs où le traité est négocié. Aujourd'hui, les agences publiques se désengagent. Les budgets publics ne sont plus suffisants. Et aux États-Unis, comme d'ailleurs en Europe, il y a un appel vers l'entrepreneuriat privé.
D'ailleurs, il y a une citation dans la dépêche AFP qui annonce ce Space Act. La citation d'un jury d'une ONG, Secure World Foundation, qui promeut la coopération internationale pour la gestion des richesses de l'espace et qui dit « c'est le début de la deuxième partie de l'exploration spatiale, donc la deuxième phase, après l'ère du prestige national ».
Exactement. Et cette deuxième partie, on l'appelle le New Space. Le New Space, c'est l'arrivée de riches...
Et après la New Frontier, il y a le New Space.
Le New Space, c'est l'arrivée de riches entrepreneurs qui sont souvent issus du milieu du numérique, qui viennent maintenant avec des projets pharaoniques, avec des sommes colossales, pour développer, en fait...
C'est Google,
Google, c'est Amazon, c'est eBay, ce sont toutes ces entreprises qui partent maintenant dans l'aventure spatiale et qui avaient besoin un peu de ce feu vert des États-Unis.
Armel Kérest.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a une réduction. Il faut quand même replacer les choses au niveau où elles doivent être placées. Je crois que la chance qu'on pourrait avoir d'utiliser les ressources minières des astéroïdes, ça me fait penser à ce qui s'est passé pour la mer en 82. En 82, tout le monde pensait qu'on allait faire fortune en allant chercher les richesses du fond de la mer. Personne depuis 82...
Les fameux nodules polymétalliques.
Nodules polymétalliques et les placères nodules polymétalliques. Bon, ça fait... pour l'instant, personne n'a jamais gagné un sou avec les nodules polymétalliques. Et donc, je pense que pour les astéroïdes, ça sera la même chose pendant encore de très nombreuses années. Donc c'est plus un problème de principe qu'un problème véritablement économique.
Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de cofinancer les recherches spatiales tout simplement et d'encourager les entreprises privées à cofinancer finalement la recherche, nationale?
Tout à fait. C'est un moyen en fait de transférer la recherche et le développement vers la sphère privée. Si vous voulez, et quand on voit en fait maintenant des entreprises privées qui
avec la promesse d'une rétribution future,
oui, avec la promesse d'une rétribution future. Maintenant, on voit des entreprises privées aux États-Unis qui développent des lanceurs, qui en fait prennent le relais sur les agences publiques pour la desserte de la station spatiale internationale. On voit des entreprises privées qui se lancent dans les vols suborbitaux. Tout cela fait partie en fait d'un nouvel environnement, d'un nouvel écosystème qui place en fait l'entreprise peut-être en première ligne.
Un dernier mot, Armel Kérest.
Oui, ce qui pose problème, c'est le fait que ça soit les États-Unis tout seuls qui les fait, que ça ne soit pas une coopération internationale. C'est là qu'est le grand problème et la grande difficulté.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus vous livrer à cet exercice de réflexion en direct avec les textes lus par Daniel Königsberg, préparés par Anaïs Quien pour ce dernier volet de notre semaine consacrée à l'histoire contrefactuelle, à l'histoire des possibles, à l'occasion de la parution du livre de Quentin de Lermoz et Pierre Saint-Garavalu pour une histoire du possible. Rappelons qu'il y a d'autres livres sur ce thème, comme 1940 et si la France avait continué la guerre, sous la direction de Jacques Sapir, de Franck Stora et de Loïc Mahé en 2010, ou encore le livre d'Antoine Reverchon, La France pouvait-elle gagner en 1870, c'était paru à Economica. Puis donnons une petite annonce pour les Parisiens qui seraient à Paris. Nos amis de l'histoire nous font savoir que le film qui vient tout juste de sortir, qui s'appelle Les filles au Moyen-Âge, un film d'Hubert Vieille compté par Michael Lonsdal, eh bien, il y a la possibilité de le voir ce soir dans un débat qui sera organisé au Champeau, donc à Paris, donc ce soir à 20h30, Les filles au Moyen-Âge, un film qui sera suivi d'un débat avec Antoine Debecq, Patrick Boucheron, professeur au Collège de France, et le réalisateur Hubert Vielle. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marseille. Anthony Thomasson était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation. Demain, table ronde fiction dans la fabrique de l'histoire.